tardé à détecter la présence de deux véhicules en fuite. Sur leurs talons, John et Ancon s'étaient lancés à leur poursuite, pieds au plancher. Les tueurs n'avaient qu'une poignée de minutes d'avance, 5 miles tout au plus d'après le drone, et ils ne connaissaient pas bien l'enchevêtrement de pistes à demi effacées par l'orage. John, si. Selon les procédés usuels, les deux véhicules pilotés par les braconniers avaient pris des routes différentes, l'un embarquant les haches nettoyées, l'autre le butin soigneusement caché en cas de contrôle. Impossible de les rattraper tous les deux, il fallait choisir une cible au hasard et tenter de l'arrêter. Avec Nathée en copilote depuis les airs, John et Ancon avaient filé plein est pour couper la route à celui qu'ils avaient le plus de chances d'intercepter. Un bon calcul, puisqu'après une course effrénée, ils finirent par apercevoir deux phares dans la nuit. Ils venaient dans leur direction, 1 ou 2 miles à travers la savane. John avait garé le Land Cruiser derrière un acacia pendant que Ancon disposait son trépied. Sniper de l'unité Omega, le San était d'une précision chirurgicale avec son fusil, et John, un serpent à sang-froid sur le terrain. Les deux hommes agirent sans un mot, concentrés sur le petit sommet de piste où le véhicule intrus déboulerait d'une seconde à l'autre. Ancon prêt, la lunette à visée nocturne pointée sur la cible encore imaginaire, John courut en parallèle de la piste tandis que le bruit d'un moteur à plein régime s'amplifiait. Le 4x4 déboucha à 200 mètres, sans voir le Land Cruiser tout feu éteint, camouflé par les épineux, ni le tireur embusqué. La balle de gros calibre fit exploser le pneu avant. La Land Rover partit en travers dans un crissement terrible, manqua son tête-à-queue et s'immobilisa en urgence. Yost Duplessis comprit vite qu'on lui avait tendu un piège. Il précipita sa main vers le pistolet caché sous le siège et vit le canon d'un vieux Colt qui le braquait à travers la vitre entrouverte. « Un geste de plus et tu es mort, » siffla John. « Tes mains sur le volant. Doucement. » La TAM se tenait face à lui, tendue, le doigt sur la queue de détente. « Allez, » insista-t-il, les yeux durs. Yost hésita. Sa paume avait déjà empoigné la crosse du Glock. Le type était seul avec son revolver. Rapide, c'était sûr, mais il fallait être un tueur professionnel pour abattre un homme de sang-froid. Contrairement aux idées reçues, même sur un champ de bataille, les hommes détestaient tuer leurs semblables. Un soldat sur 5 tirait pour tuer. Les autres visaient au-dessus de leur cible, ou pas du tout. Seuls les psychopathes aiment ça. Les mercenaires, ou ceux qu'on paye pour assassiner. Et la dame n'était pas de cette race. « Ça va, ça va !» glapit Yost, levant la paume gauche au-dessus du volant en signe de reddition. Une seconde ou deux de distraction qui lui permirent de redresser sa main munie du bloc. Yost pressa la détente dans le même mouvement et sentit une terrible déflagration lui exploser en pleine face, un feu traverser son visage, et puis plus rien. Un trou noir, comme la balle du Colt fichée dans sa boîte crânienne. John ne s'attarda pas sur la vision du mort. Il prit un chiffon qui traînait à l'arrière, se pencha vers l'habitacle pour ouvrir le capot, tandis que Ancon accourait, clopin-clopant. Le butin des braconniers était le plus souvent fixé par des filins d'acier sous le capot ou sous un châssis spécialement aménagé que les bergers malinois des brigades canines avaient du mal à déceler. Les cornes des rhinocéros fraîchement assassinés étaient bien là, à côté du carburateur. Les cigales s'époumonnaient dans la nuit, peu en phase avec ce qu'ils venaient de vivre. Il y avait du sang sur le siège de la Land Rover. L'homme au visage emporté par le choc hydrostatique était maintenant affalé. Blanc, la quarantaine épaisse sous sa tenue de brousse, une montre de marque au poignet. « On va laisser la voiture ici, » dit John. « Vérifie que ta balle n'est pas restée dans le pneu. » Il récupéra la douille qui dormait dans la poussière, se pencha sur le cadavre et constata que le projectile n'était pas ressorti du crâne. On pouvait remonter jusqu'à son revolver. Il fouilla brièvement ses vêtements, aucun papier sur lui évidemment, juste un talkie-walkie accroché au tableau de bord. S'armant de chiffon, John posa les mains du trafiquant sur le volant poisseux de sang, puis il tira la vermine hors de l'habitacle. Chapitre 6. L'Afrique avait laissé partir les Amériques au large des océans il y a 100 millions d'années. Puis des vents puissants avaient soufflé, éparpillant les sables du Sahara jusqu'à l'Afrique australe, où le Kalahari s'était formé. Une éruption volcanique avait engendré d'énormes poussées sous ces sables, libérant des matériaux gazeux qui avaient explosé à la surface. C'est dans cette roche très particulière, la kimberlite,